Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on remplit comme à chaque semaine maintenant le bulletin de la colline avec Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel, des anciennes des arcanes politiques. Le bonnet d'âne va à Marie Montpetit, on met des étoiles dans le cahier de Lionel Carman et d'André Fortin, puis on analyse le jeu d'équipe des libéraux et aussi une question assassine de Vincent Marissal. Mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
Y'a sa barbe qui pique un peu, y'a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien a de l'or dans les mains.
Mais bonjour Thomas Mulcair.
Salut l'autre barbu.
Notre barbu, notre tonton Thomas est accessoirement collaborateur à la Joute et à plein d'autres émissions. Tom, quand est-ce qu'on va être vacciné pour la COVID? Ici au Canada et au Québec?
Ça, c'est la question à 64 000 piastres.
Ben oui.
Ou à 150 millions de dollars pour des doses qu'on a payées, mais qu'on n'aura pas à temps. En gros, depuis 8 jours, c'est une vaste hésitation au fédéral, des versions qui se contredisent de jour en jour et même à l'intérieur de l'entrevue. J'ai un collègue qui s'appelle Evan Solomon qui a fait une entrevue hier en onde avec Dominique Leblanc. Et en une phrase, Dominique Leblanc se contredit à plusieurs reprises à l'intérieur d'une même phrase. En gros, depuis la semaine dernière, l'Ontario et l'Alberta avaient dit, ben nous, on va avoir X millions de doses, donc on va tout préparer parce que les provinces doivent préparer pour la livraison des vaccins. Et le fédéral était chargé de les commander, de les acheter, puis faire la distribution. Et voilà que tout d'un coup, un sous-fifre de la ministre Patty Hajdu, la ministre de la Santé, son secrétaire parlementaire ou je sais pas quoi, il dit, je sais pas où est-ce qu'ils ont sorti leurs chiffres, l'Ontario et l'Alberta, c'est pas nous qui avons donné ça. Là, tout le monde commence à figer en disant, mais c'est quoi le problème, là? Vous nous avez dit qu'il y avait tant de doses. Nous, on a fait un calcul très simple, une règle de 3.
Une règle de 3.
Oui. Et vous dites que c'est pas là. Puis là, ça commence. C'était une balle qui a duré toute la fin de semaine dernière. Là, tout d'un coup, au lieu d'avoir ça en décembre, comme les Américains, comme les Britanniques, comme les Français, comme les Allemands, comme les Mexicains, comme les en Inde, là, ils commencent à dire, ben, janvier. OK, d'accord, pourquoi? Pas de réponse convaincante. Là, pendant la fin de semaine, il y a quelqu'un à l'intérieur du gouvernement qui se dit, en fait, d'ici le 31 mars, on devrait avoir plusieurs millions de doses. Mais 31 mars... Ça veut dire que nous, on va regarder des autres pays se faire vacciner pendant, pas des jours ou pas des semaines, mais pendant des mois.
Ben oui.
Là, peut-être qu'ils pensaient que ça faisait moins mal. Ils commençaient à dire, ben, c'est le premier trimestre. Oui, mais le premier trimestre, ça finit le 31 mars. Arrêtez de niaiser, là. C'est quand et c'est combien de doses? C'est impardonnable.
Ah oui?
Ils n'ont pas prévu dans leur contrat, comme par exemple avec Pfizer, que 10% de chaque partie de production serait vouée au Canada, puis on les achèterait jusqu'à tant de millions de doses. Puis, Antoine, je vais te dire une chose. Tu sais, avec de l'expérience, on capte certaines choses. Il y a une couple de semaines, ils étaient en commission parlementaire. Puis j'ai vu les libéraux en train de se débattre comme un diable dans l'eau bénite pour pas que les gens aient accès à leur contrat avec Pfizer. Ils ont même produit une lettre de Pfizer disant « Oh non, faut pas rendre ça public, c'est des secrets de notre compagnie, blablabla. » Là, j'ai dit « OK, ça marche pas. Ça, c'est une histoire de se protéger eux-mêmes par les libéraux. Ils veulent pas que ce soit rendu public. » Et effectivement, on commence à comprendre que quand ils annonçaient en grande pompe « Oh, il va avoir des centaines de millions de doses », mais on n'a jamais dit quand. Et on n'a jamais prévu ça intelligemment dans les contrats. Et vous allez voir, il y a des gens qui vont... Tragiquement, c'est certain qu'il va y avoir des gens qui vont mourir de cette horrible maladie-là parce qu'ils n'auront pas été capable d'avoir le vaccin.
Je me mets à la place des dirigeants. C'est sûr qu'on n'a plus de capacité de production de vaccins. D'ailleurs, peut-être qu'on aurait dû garder ces capacités-là pour la souveraineté sanitaire. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Qu'est-ce que le gouvernement du Canada aurait pu faire, et peut-être aussi le gouvernement du Québec, pour s'assurer d'avoir le vaccin en même temps que les autres pays, alors qu'on n'en produit pas?
Il y a des compagnies comme Moderna, qui faisait partie du programme dit « Warp Speed » de Donald Trump pour produire très rapidement et arriver à bout. Pfizer était très explicite. Eux, ils n'étaient pas dans ce programme-là. Eux, ils avaient la liberté de signer les contrats comme ils voulaient. Donc, ça aurait été très possible pour nous de signer un contrat avec Pfizer, prévoyant, comme je mentionnais un exemple, 10% de chaque lot de production irait au Canada jusqu'à temps qu'on reçoit notre quota. Mais c'est pas ça qui est écrit dans ces contrats-là. Donc, on est complètement à l'arrière de...
On est à la remorque, oui.
Ben, on est complètement en arrière des Américains, des Britanniques, et ainsi de suite. Pour cette histoire-là, début de semaine, j'ai fait un suivi de ça très étroit cette semaine. En début de semaine, il commence à spinner en background, il ne le disait pas publiquement, que c'était la faute de Brian Mulroney. Allô, vous êtes au pouvoir depuis 6 ans. Ouais, parce que Mulroney, il n'aimait pas trop de privatiser, il voulait pas trop de public, il voulait privatiser, blablabla. Là, ils n'osaient pas dire une telle sornette publiquement, mais oui, Dominique Leblanc l'a dit dans une autre entrevue. Il finit par dire, ben, vous savez, c'est la faute de Brian Mulroney. Là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, OK, là, on délire, là. On est rendu vraiment dans une autre dimension si on croit que le public va accepter de se faire dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? En janvier, je prédis qu'il va avoir des doses, quelques-uns, quelques milliers. On va avoir un photo op avec M. Trudeau qui va accompagner une policière ou une infirmière.
Pour vacciner des plus vulnérables.
Pour être vacciné, ainsi de suite. Les gens sur la ligne de front, je veux bien. Mais les gens sauront qu'ils n'ont pas eu leur vaccin. Il y a une limite à ce qu'on peut faire avec du spin politique. Mm-hmm. Et je pense que les libéraux sont en train d'atteindre cette limite-là. Puis ça risque d'aller coûter très cher aux prochaines élections.
Puis à Québec, pendant ce temps-là, le contrat moral de François Legault est constamment ajusté. Où on n'a pas vu les petits caractères, mais en tout cas, le contrat moral pour fêter à Noël, il semble plus tenir vraiment.
Je suis assez tough lorsqu'il s'agit de juger la performance globale de notre système au Québec depuis le début de la pandémie. Mais ici, je vais donner raison quand même à François Legault. Parce qu'il dit depuis le début, puis ça c'était clair, il dit si les chiffres ne s'améliorent pas, oubliez ça, on pourrait même pas laisser les gens avoir des groupes pour Noël, quoi qu'il soit. Donc, on dit 4 jours. Sur les 4 jours, maintenant, c'est juste 2 jours possible. C'est un changement, certes. Il dit que c'est basé sur la santé publique et leur changement. Il peut bramer qui veut. Mais moi, je pense que le public va pas être choqué avec ça. Ce qui va choquer le monde, c'est que si on doit annuler tous les rassemblements à Noël. Et là, on est rendu à 2. Si ça continue comme ça, je soupçonne qu'ils vont être obligés de dire juste une fois.
Ben oui, il y avait 1500 cas hier encore.
Ben c'est ça, c'est flambé.
Mais c'est pas une flambée, hein? C'est pas une flambée comme en Alberta ou comme en...
Non, proportionnellement, en Alberta, c'est bien pire. L'Ouest canadien, là, les prairies qui ont été largement épargnées, Antoine, lors de la première vague comparée à nous autres. Mais là, tout d'un coup, les chiffres, même en Colombie-Britannique, qui déplorent beaucoup moins de morts que les autres provinces, mais la Colombie-Britannique, en termes du nombre de cas en ce moment, c'est terrible aussi. Donc, tout l'Ouest canadien, c'était surtout l'Ontario et le Québec qui ont pâti au printemps, mais maintenant, cette horreur de COVID-19 est distribuée également à travers le Canada.
Tu faisais l'éloge pendant la première vague de Bonnie Henry en Colombie-Britannique, la docteure Arruda. Est-ce qu'elle mérite encore des éloges ou est-ce que...
Oui, elle mérite des éloges, oui, effectivement. Puis leur système mérite des éloges. Okay. Leur système fait en sorte que c'est la personne responsable de la santé publique qui décide.
Oui.
Donc, les élus, les provinces où ce sont les élus qui décident, et ils le disent très comme Jason Kenney en Alberta, et ils sont aux prises avec une éclosion terrible en Alberta, puis les bars sont encore ouverts. Il a restreint les heures, et ainsi de suite, mais lui, il dit non, ça va être pire si les gens perdent leur job. Donc, lui, il met l'économie avant la santé, et il est clair là-dessus. Oui. Et la personne...
C'est le héros des restaurateurs québécois, d'ailleurs, qui m'envoie vidéos de Jason Kenney. Sauf que c'est la flambée totale là-bas. Là.
Ben oui. Donc, comment est-ce qu'on troque des décès contre des jobs dans des restos et dans des bars? Ouais. Moi, je comprends pas. Mais c'est clair qu'à travers le Canada, il y a deux modèles. Mais j'oserais dire que si on regarde le nombre de décès, parce qu'il y a juste quelques centaines de décès en Colombie-Britannique avec une population au-dessus de 5 millions. Nous, on a 8 millions et plus de population, puis on est proche de 7 000 morts. Mm-hmm. En ce moment. Donc, ça se compare vraiment pas.
En terminant, parlons de la nomination des juges par le gouvernement Trudeau.
Une autre pile de pelures de banane pour Trudeau.
Ben oui.
Ça commence à sortir de plus en plus.
On pensait qu'il y aurait un comité parlementaire. Réal Fortin du Bloc québécois voulait déposer une demande d'enquête.
Oui,
puis finalement, il a été battu hier. Oui. C'est ce que je révèle ce matin dans ma chronique.
Je sais. Et ce que tu révèles, c'est que c'est le NPD qui s'est accoquiné avec les libéraux pour empêcher qu'on étudie les fling-flang des libéraux dans les nominations des juges.
C'est incroyable.
Une phrase suffit pour résumer le tout.
Oui.
Les libéraux avaient une liste pour les nominations des juges dans leurs ordinateurs. Ça a été révélé. Ça s'appelait Libéral List. Il fallait un libéral avéré avec des bons contacts pour pouvoir être nommé juge.
Et des bons dons.
Ça s'appelle déconsidérer l'administration de la justice. Le Québec a nettoyé largement son système avec la commission Bastarache. Les fling-flang qui avaient eu cours généralement avant ça ont largement cessé suite à ça. Il y a eu un bon nettoyage. Ben, le fédéral est dû pour la même chose. On
ne
peut pas continuer comme ça. Parce que si quelqu'un arrive devant un juge, puis le critère principal pour sa nomination, c'est sa couleur politique, ça ne marche plus.
Oui, puis on sait que ça arrive, ça a été démontré, en tout cas, déjà par des enquêtes journalistiques. Il y en aura d'autres, je peux te le garantir. Ben, merci infiniment, cher
plaisir.
Thomas, pour ce dialogue des barbus du vendredi. Et puis à très bientôt. Oui, à la semaine prochaine. Vous êtes à l'écoute, comme vous vous en doutiez, de là-haut sur la colline.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Antoine Robitaille.
Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez là-haut sur la colline.
C'est l'heure du bulletin de la colline avec mes deux collaboratrices. Bonjour Sophie Villeneuve.
Bonjour Antoine Robitaille.
Bonjour Yasmine Abdel-Fadel.
Bonjour Antoine.
Avec Sophie et Yasmine, tous les vendredis, on remet les notes aux élèves de la colline. Donc Sophie est présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire, et Yasmine, directrice des communications d'une firme de services conseil. D'abord, on commence par la rubrique « François Paradis en enfer ». Yasmine, raconte-nous ce choc frontal entre un député libéral et une ministre caquiste.
Bon, ben pour faire une histoire courte, mon chef d'éragie, député de Néligan et critique en matière d'innovation et de PME pour le Parti libéral du Québec, a accordé une entrevue radiophonique durant laquelle il a critiqué les mesures gouvernementales pour les PME. Cette entrevue-là s'est retrouvée finalement en période de questions lorsque la ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, Marie Estrou, a demandé à Dominique Anglade de déclencher une commission d'enquête sur son député parce qu'il aurait critiqué les mesures de santé publique.
Il aurait dit même de ne pas suivre les recommandations de la santé publique. C'est une accusation très grave.
Ben, c'était toute une accusation. Ça a créé une certaine commotion en chambre. Il y a eu une partie de ping-pong entre le leader de l'opposition et le leader du gouvernement. François Paradis, président de la Chambre, finalement, a demandé à ce que la ministre Roux formule des excuses aux députés de Néligan, qu'elle a refusé de faire. Donc, pour moi, des histoires comme ça, des parties, finalement, de disputes un petit peu comme ça entre les deux parties, ça arrive très régulièrement. On s'en rappelle de Jean Charest avec... Mario Dumont, quand il l'a traité de girouette.
Oui.
Le président de l'Assemblée nationale dans le temps était Michel Bissonnette. Et M. Charest a dû s'excuser à la fin. Ça arrive. Mais ce qui est le plus important, c'est que c'est un test de leadership du président de l'Assemblée nationale. C'était un test pour François Paradis plutôt que pour Marie-Ève Proulx ou pour Monsef Béragi. Et je pense qu'il a échappé la balle.
Sophie, comment t'as perçu ça, toi qui as travaillé à l'époque dans les officines au moment où ça brassait pas mal au Parlement?
On avait un peu l'impression d'être à l'époque d'Yvon Vallière.
Oui, et c'est pas nécessairement un compliment. D'ailleurs, on va en écouter un extrait.
Le député de Nelligan est allé à la radio pour dire aux gens de ne pas tenir les mesures sanitaires, d'une part, et d'autre part...
Je vous ai déjà invité à la prudence dans les propos que vous tenez, dans les messages que vous portez également. Je vous demande de faire, monsieur le leader, de l'opposition officielle.
Non, il y a plus que la prudence, monsieur le président. Il y a la vérité. Et je vais demander à la députée, à la ministre, de retirer ses propos parce qu'en aucun cas, à moins qu'elle soit prête à déposer des écrits ici en cette chambre, là, en aucun cas, le député Nelligan ou n'importe qui de ce côté-ci de la chambre, tout parti confondu, monsieur le président, a incité les gens à ne pas suivre les consignes de la santé publique. Vous le savez, c'est pas un fait qui est débattable. Je vais demander à la ministre de s'excuser.
Je demande au leader du gouvernement de s'exprimer.
Oui.
Oh, François Paradis, emmenait pas large à ce moment-là. Mais c'est un peu mort dans l'œuf, Yasmine, cette affaire.
Ben, en fait, Marie-Ève Proulx ne s'est pas représentée en période de questions de la semaine, faut le dire. Donc, il n'y a pas eu d'occasion de pouvoir revenir sur le sujet. Je pense que André Fortin, le leader du Parti libéral du Québec, a essayé de ramener le sujet, mais devant l'absence de Marie-Ève Proulx, ben, évidemment, le sujet est mort un peu dans l'œuf.
Sophie, là-dessus, rapidement?
Ben, rapidement, effectivement, je pense qu'il y a des changements majeurs qui ont été apportés à l'Assemblée depuis les années très troubles où il y avait demande de commission d'enquête et où à chaque période de question, il y avait une perte de contrôle complète. Je pense que c'est bien de garder une certaine posture plus noble dans cette enceinte qui, je pense, qui mérite un respect mutuel. Donc, moi, quand on part dans ces directions-là, je suis toujours un peu mitigée. Je pense que il y a des lieux pour chaque chose, puis je suis pas convaincue que l'enceinte de l'Assemblée soit le bon endroit pour faire ce genre de bataille de coq-là.
Il y a moins de batailles de coq comme celle-là, mais oui, ça arrive encore à l'occasion. Maintenant, Sophie, tu vas nous parler du jeu d'équipe de la semaine et c'est les libéraux qui ont joué en équipe.
Ils ont joué en équipe puis c'était bien coordonné. Il y avait une belle séquence dans les interventions. Moi, j'ai trouvé que le jeu d'équipe était formidable. Bon, Marois, qui est toujours aussi bonne, aussi flamboyante en période de questions, mais ses collègues se sont... tout le monde l'a joué bien arrimé. Ça donne un bon résultat. Puis je pense
sur
que
le sujet du
aussi.
Contrat moral, il faut le dire, oui. C'était le contrat moral de François Legault et les libéraux donnaient à tour de rôle un exemple d'une personne qui ne pourra pas respecter le contrat moral, c'est-à-dire des travailleurs de la santé qui ne pourront pas s'isoler. Donc, c'était quand même assez percutant et comme une salve. Hein?
Exact. C'était une salve très bien séquencée. Puis, je pense que ça traduit aussi un peu la perception populaire. C'est le fun de voir que l'Assemblée nationale représente les discussions, les vraies discussions des gens actuellement. Et c'est ça, les vraies discussions des citoyens en ce moment. C'est que ça fonctionne pas. T'sais. C'est qu'il y a de l'incohérence qui fait bien rapporter.
Mm-hmm. Yasmine, comment appelles-tu ça, toi?
Moi, j'appelle ça la stratégie M. Kelly parce que c'était une stratégie menée par Marie, Monsef, Marc et Marois. Et en plus de Greg Kelly qui est venu finaliser le tout.
Lui, c'était sur les commissions scolaires, hein, les élections scolaires. Il trouvait que c'était complètement ridicule.
La démocratie scolaire, en effet.
Ça a été une belle opportunité aussi de voir s'illustrer André Fortin qui, je trouve, incarne de plus en plus le leader parlementaire. Bon, moi, j'ai un faible. Je trouve que le leader en chambre, c'est le plus beau rôle. C'est le rôle qui doit se refléter le plus fortement. Puis je trouve que de plus en plus, il l'incarne. Ça lui sied bien, ça lui va bien.
T'as travaillé, toi, pour un leader?
Moi, j'ai travaillé pour quelques leaders, notamment oui. Stéphane Bédard.
Oui.
J'ai travaillé pour Michel Gauthier à Ottawa, qui était un leader, je pense, avec des caractéristiques très fortes
oui.
aussi. Puis j'ai eu à travailler beaucoup avec Jacques Dupuis aussi, bon, de par les fonctions auprès de Stéphane Bédard. Mais de voir quelqu'un qui apprend, qu'il prend bien, qu'il l'incarne comme ça. C'est agréable à voir aller, André Fortin, une étoile dans son cahier cette semaine.
Super. Le coup de poing de la semaine. Donc, la question la plus dure qui a été posée cette semaine, moi, je pense que c'est celle de Vincent Marissal à Pierre Fitzgibbon. Yasmine, tu nous en parles.
Ben, en fait, oui, Vincent Marissal a posé toute une question à Pierre Fitzgibbon concernant ses interventions sur LinkedIn. Mais c'est peut-être le coup de poing de la semaine, mais c'est aussi l'esquive de la semaine parce que je pense que c'est Québec solidaire a raté une bonne occasion de pouvoir prioriser sa stratégie en chambre. C'était la question, la dernière question posée en chambre. Il n'y a eu qu'une question principale, il n'y a pas eu de complémentaire.
C'était la fin de la période de questions. Hey, si tu veux, on va l'écouter. On a un extrait.
Oui.
La dernière frasque. Le ministre, sur les réseaux sociaux, insulte et culpabilise un investisseur floué dans les mascottes. En avril 2019, le ministre a dit que si sa présence était perçue comme négative ou comme une embûche à ce que le premier ministre voulait accomplir, il allait démissionner. Est-ce qu'on est rendu là, M. le Président? Est-ce qu'il trouve ça positif, vraiment, pour son gouvernement et pour nous, les parlementaires, que d'insulter un investisseur floué sur les réseaux sociaux?
Donc, ça fait mal.
Oui, ça fait mal, mais Fitzgibbon s'en est quand même bien sorti, étant donné que ça s'est avéré finalement un pétard mouillé qui n'a été repris pratiquement nulle part.
C'est tombé à plat. Donc, la motion maintenant la plus touchante, c'est Sophie qui va nous en parler. C'est une motion d'Isabelle Melançon.
Exact. En fait, cette semaine s'entamaient les journées d'action contre la violence envers les femmes. Et bon, ces journées d'intervention-là, d'action-là, sont toujours un beau moment, je pense, pour laisser tomber la partisanerie puis travailler tous dans la même direction pour le bien commun. J'aime ça quand ça transcende, quand il y a des intérêts qui transcendent à ce niveau-là. Et j'ai trouvé que chaque parlementaire qui s'est élevé pour parler de ce sujet-là l'a fait avec beaucoup d'émotion, beaucoup de sensibilité. La ministre était beaucoup dans son texte. J'ai trouvé que ça aurait pu plus senti de son côté, par exemple.
Oui, oui, c'est la ministre Isabelle Charest.
Donc, je pense que c'est un dossier qui est fort. Et je pense aussi, par ailleurs, que tu sais, c'est revenu le lendemain en période de questions. Et le premier ministre s'est levé, s'est permis de se lever et d'être assez incisif à cet échelle-là par rapport à du financement pour les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. Puis il y a eu une réponse assez catégorique, assez claire. Il est venu nous dire simplement « je comprends pas que l'argent soit pas déjà rendu ». Donc, je pense que ça envoie un message assez clair à une machine qui devrait s'activer pour régler des problèmes.
Bien. Maintenant, une étoile pour l'amélioration la plus notable, ce serait celle du ministre Lionel Carman. Et c'est Yasmine qui va nous en parler.
Ben, écoute, Antoine, Lionel Carman est pour moi le ministre du gouvernement de la CAQ qui a connu la plus nette amélioration dans ses prestations lors de la période de questions depuis le début du mandat de la CAQ. Rappelons-nous les difficultés qu'il avait il y a à peu près un an et demi à répondre aux questions en chambre, à être fluide et à démontrer une connaissance de son dossier. Ça avait été difficile pour lui de défendre l'encadrement finalement de la consommation de cannabis, si on se rappelle du projet de loi qu'il avait déposé. Mais aujourd'hui, Lionel Carman, c'est le visage empathique du gouvernement.
Ouais.
Il a l'air de connaître ses dossiers, il est fluide, il n'est pas partisan, puis c'est pas une personne partisane, fait qu'il est plus à l'aise dans le rôle qu'il joue actuellement. Il a l'air ouvert, tu sais, il s'est même pas attaqué par l'opposition dans ses réponses parce qu'il est d'une ouverture que tout le monde apprécie, puis ça paraît. Mm-hmm. Il a clairement amélioré ses performances en période de questions, tellement que le gouvernement lui donne la responsabilité de répondre pour toutes les questions entourant la santé le mercredi à cause de l'absence de Christian Dubé.
Ben oui, il faut le dire, le mercredi, il y a deux grands absents, Christian Dubé et François Legault. Et ça commence à irriter, là, Dominique Anglade, donc la chef libérale cette semaine, s'en est plein. Elle a dit qu'elle est là toujours. Donc, est-ce que ça pose un problème, ça, Sophie, selon toi?
L'Assemblée nationale siège, le premier ministre doit être à l'Assemblée nationale. En temps normal, il est très rare qu'on voit le premier ministre être absent des périodes de questions. C'est un moment de reddition de compte qui est important. On est dans une période névralgique à cet effet-là. Donc, Moi, j'ai l'impression, en fait, j'ai la conviction que le premier ministre devrait être en chambre pour les périodes de questions. Un point de presse ne peut pas se substituer à un exercice démocratique pour lequel on s'attend à avoir des réponses. Donc, bien que la vice-première ministre ait de belles qualités, qu'elle soit bien briefée, qu'elle connaisse les dossiers, je pense que les Québécois et les parlementaires s'attendent à voir leur premier ministre et leur ministre de la Santé dans l'enceinte de l'Assemblée à tous les jours de la session.
L'impression de Yasmine, c'est qu'il y a une équipe A et une équipe B. Parle-nous-en un peu, Yasmine.
En fait, on voit que c'est pas les mêmes personnes qui sont présentes le mardi et le jeudi versus le mercredi. Et ça, c'est dommage. Par exemple, le jeudi, Lionel Carmont, c'est là où il aurait dû être en chambre pour répondre à la question du deuxième cas malheureux de Granby.
Ouais.
Et avec l'absence de Marie-Ève Proulx jeudi, ben, il n'y avait plus aucun porte-parole en matière d'économie, étant donné que Fitzgibbon fait partie de l'équipe B du mercredi. Et encore là, Mme Bilbao n'était pas là jeudi, alors qu'il y avait tout un dossier qui était sorti par le Journal de Montréal concernant le blanchiment d'argent dans les casinos. Donc, on peut pas juste diviser les équipes sans tenir compte de l'actualité. Il y a un exercice de reddition de compte et il faut que les équipes soient montées pour répondre aux questions de l'opposition. Ça reste quand même un exercice très important pour notre démocratie, finalement.
La mauvaise élève de la semaine, maintenant, c'est Sophie qui va nous en parler.
Oui. Parfois, être incisif puis faire des effets de tonne, ça donne de bons résultats. Parfois, on va trop loin. Marie et mon petit, cette semaine, est allée un peu loin dans ses commentaires.
Et la critique en matière de santé des libéraux.
De santé, exact. Est allée un peu loin en disant, bon, tu sais, on pense que le ministre lit pas sa revue de presse, on va lui en fournir une. À un moment donné, ce sont des attaques basses qui mènent le débat nulle part.
Terminons sur un sourire. Yasmine va nous parler du cabotinage de la semaine, justement.
Notre joueuse étoile, Marois Risky, ne cesse de nous surprendre, ne cesse de développer de nouvelles tactiques pour faire son point et le démontrer, même visuellement. Cette semaine, elle a même porté des lunettes roses pour essayer de se mettre à la place du ministre Roberge. C'était une très belle illustration de ce qu'elle voulait démontrer. Elle portait ses lunettes roses en chambre. Malheureusement, elle ne les a pas gardées assez vite pour qu'on prenne des photos, mais très belle illustration de la part de Marois.
Ah, il faut regarder Zone Asnat qui a fait justement un segment avec ce cabotinage de Marois Risky du Parti libéral dont on va écouter un extrait.
Écoutez, monsieur le président, je ne sais même plus comment faire. J'ai même essayé de voir ce que le ministre de l'Éducation voit. J'ai trouvé ses lunettes roses. J'ai beau lire avec des lunettes roses, là, les rapports scientifiques, la science, ça reste la science. Maintenant, il faut agir. Est-il prêt, oui ou non, aujourd'hui, à commander des détecteurs de CO2 et des purificateurs d'air?
Merci, le ministre de l'Éducation.
Eh bien, c'était les lunettes roses de la semaine. Merci beaucoup. C'est bon de terminer sur un sourire. Yasmine Abdel Fadel, Sophie Villeneuve, merci beaucoup pour ce bulletin du vendredi, bulletin de la colline. Et à la semaine prochaine.
Merci à toi.
Sophie Villeneuve est présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire, et Yasmine Abdel Fadel est directrice des communications d'une firme de services conseils. Et c'est tout pour nous à La Haut sur la Colline cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.
Ce segment politique vous est offert par Article 79 Surveillance parlementaire. Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à Article 79. Résumé des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets, nominations et tous les travaux parlementaires. Voyez les forfaits et abonnez-vous sur article79.com.
Cube Radio.